Marie, Françoise et Wolo présentent le journal.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. À force du silence contre la dictature du mauvais bruit, Paul Biya est vivant, il se porte bien, il va qu'à ses occupations. Il sera de retour au bercail dans les tout prochains jours. Assurance donnée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et le ministre directeur du cabinet civil suite à la vague de rumeurs qui a immergé l'opinion nationale et internationale. Soulagement, apaisement, les Camerounais, dans leur immense majorité, accueillent avec joie les bonnes nouvelles fraîchement servies sur leur président et condamnent avec véhémence les pêcheurs en eau trouble. Ils expriment leurs sentiments dans le 13h. Parole sera également donnée à la classe politique camerounaise pour faire toute la lumière sur cette déferlante. Dossier spécial dans quelques instants. D'abord, ce communiqué du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo. Depuis un certain temps, quelques personnes malveillantes à travers les réseaux sociaux ont entrepris de faire croire que le président de la République serait gravement malade, voire passé de vie à trépas. Le cabinet civil de la présidence de la République tient à rassurer tous nos compatriotes ainsi que la communauté internationale sur l'excellent état de santé du chef de l'État qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing. Le cabinet civil de la présidence de la République condamne fermement les comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion publique nationale et internationale. C'est signé le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondoyolo. Puis ce communiqué du gouvernement, signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi. Des rumeurs de toute nature circulent à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux sur l'état du président de la République, son Excellence Paul Biya. Des chaînes de télévision en quête d'une certaine reconnaissance au sein de l'opinion publique s'en font l'écho par des annonces péremptoires, assorties de commentaires tous aussi tendancieux les uns que les autres, mais sans aucun rapport avec la réalité des faits. Le gouvernement de la République affirme sans embâge que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend y apporter un démenti formel. Le gouvernement tient à faire savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique, auquel il a pris une part active, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure comme de coutume et où qu'il se trouve, attentif à l'évolution de la vie nationale. Par conséquent, le gouvernement de la République invite aussi bien les Camerounais que nos partenaires et les pays amis à ne point se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Au demeurant, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. C'est signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi. Depuis quelques jours donc, des rumeurs circulent sur l'état de santé du président de la République, Paul Biya. Certaines de ces rumeurs annoncent même sa mort. Ce scénario ressemble, à s'y méprendre, à celui vécu il y a 20 ans, dans les mêmes circonstances. Les acteurs de cette entreprise veulent visiblement semer la panique et en tirer bénéfice, dont le plus grand est l'accès à la magistrature suprême. Voici l'éditorial de Valérie Dikosumaro.
Qui veut tuer le président de la République, Paul Biya? Ces derniers temps, ils n'en sont plus à vouloir sa mort par des souhaits, des vœux et autres incantations. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Depuis quelques jours, ils ont orchestré sa mort en utilisant la rumeur et son ultra-puissant amplificateur que sont les réseaux sociaux. Il n'y a plus un seul jour où une nouvelle pseudo-source est citée par WhatsApp, Facebook, X et que sais-je encore, annonçant la mort du président de la République. Notre bon sens est mis à rude épreuve, au point où nous ne nous posons même plus la question de savoir si une même personne peut mourir chaque jour. Souvenons-nous, en 2004, il y a 20 ans, la rumeur et quelques journaux s'étaient fait l'écho de la mort du même Paul Biya. quasiment dans les mêmes circonstances. Le président était alors hors du pays depuis quelque temps et des gens avaient monté une histoire de toutes pièces. De retour à Yaoundé, le fantôme leur avait donné rendez-vous une vingtaine d'années plus tard. Les mêmes, ou ceux qui leur ressemblent, ont décidé qu'une vingtaine signifie 20. Et 20 ans plus tard, les voici au rendez-vous avec le même fantôme. Le contexte, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et l'âge du patriarche ont achevé de donner du crédit à une information où le plausible le dispute à la réalité, à la vérité. Paul Biya lui-même n'a pourtant eu de cesse d'expliquer que la succession à la tête du Cameroun est organisée par des institutions qui existent et qu'il a patiemment mises en place. Et que le moment venu, les institutions fonctionneront. Les entrepreneurs de la panique et du chaos sont à l'œuvre pour créer une situation dont ils espèrent tirer bénéfice. Mais rien, alors rien ne prouve qu'ils en seront les bénéficiaires parce que le chaos ne choisit pas ses victimes. Tout homme politique qui se respecte sait que rien ne vaut la paix. Le désordre comme programme de lutte pour succéder à Paul Biya est donc questionnable. Le Cameroun est un pays stable. Le Cameroun est un pays fort. La force et l'intelligence de ses enfants le feront triompher, lui donneront de surmonter toutes les épreuves.
Valérie Dikosumaru, éditorialiste, directeur des rédactions radio. Ali Bachir, membre titulaire du comité central du RDPC et membre de l'élite de la Damawa, est allé de sa vive réaction face aux fausses nouvelles au sujet de la situation sanitaire du président de la République propagée par ceux qu'il appelle les ennemis de l'État. L'homme politique souligne le nécessaire respect dû au président de la République. Je vous propose de l'écouter dans ses propos recueillis au téléphone par Sardi Lawan.
La santé d'un être humain, ça relève d'une stricte intimité. C'est des apprentis sorciers, des politiciens qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs par les urnes, qui sont en train de vouloir instrumentaliser le peuple camerounais. Parce que c'est quelque chose qui revient. Et au-delà de ça, moi je voudrais dire que avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimé, le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, qui est chargé de la communication du plus grand parti du Cameroun, qu'est le RDPC, s'est aussi exprimé. Et le ministre directeur du cabinet civil, qui est en compagnie de ce président de la République, s'est exprimé. Je crois que le débat est même clos. Le temps est venu de laisser les Camerounais faquer à leurs occupations. Je ne sais pas pourquoi des individus s'acharnent à vouloir nuire à l'image même du Cameroun, parce que le président de la République incarne tout le Cameroun. Il s'attaque à la République. Ce sont des ennemis de l'État.
Comment le sait, les fake news peuvent nuire gravement à l'image extérieure d'un pays. La pensée est d'Aruna Mfenjou. Il est consultant en alphabétisation numérique. Ses propos sont recueillis par Gilles-Claude Mbong-Etundi.
Au niveau du développement des affaires, les fausses informations peuvent nuire à la réputation des entreprises. Des rumeurs non fondées peuvent également décourager les investisseurs locaux et étrangers, freinant ainsi le développement économique d'un pays. Les fake news, souvent alimentés par des préjugés ou des stéréotypes, peuvent entraîner des conflits et des tensions au sein des communautés. En ligne, par exemple, certains acteurs mal intentionnés diffusant des informations mensongères et ces informations peuvent inciter à la violence ou à la discrimination contre certaines communautés. Des groupes ou des individus peuvent également utiliser des fake news pour manipuler l'opinion publique à des fins politiques et généralement pendant des périodes électorales. Par exemple, la désinformation peut biaiser les résultats en diffusant des fausses informations sur des candidats ou des partis.
Quand les faux profils prennent en otage les téléphones portables, les plaintes se multiplient face à l'ampleur du phénomène. Entre SMS de demande d'aide erronée, des liens intempestifs piégés pour accéder à une tombola gagnée, des appels de personnes inconnues et la liste est loin d'être exhaustive pour attirer l'attention sur l'arnaque et le piratage mobile. Pour éviter les pièges des cybercriminels, diverses solutions et astuces sont proposées au-delà de la vigilance qui est exigée à tous. Agnès Sylvienne Anzama.
Le téléphone, un outil électronique qui, au-delà de ses atouts et de ses services à offrir, est désormais une connexion entre nous et les cybercriminels.
J'ai été contactée par un monsieur qui me dit « J'ai retenu ton dossier au port à condition que tu déposes 150 000. » Je lui ai dit que je ne peux pas. Il me dit « Donne alors ce que tu as. Tu déposes à tel numéro, tu fais ceci. » J'ai posé trop de questions, il me dit « Ah, tu vas mourir dans le chômage. »
Avant de vous contacter, les malfaiteurs du cyberespace prennent soin de collecter un maximum d'informations sur leurs victimes. Adrienne Liken, certifiée en cybersécurité.
Le paramétrage qu'on met en ligne, c'est bien beau parce que ça facilite le travail de le digital. Mais parfois, ça donne aussi des failles.
Il faut éviter d'accepter les demandes de contacts qu'on ne connaît pas.
Face à des appels inconnus, à des SMS de demande d'aide, un lien intempestif reçu, un doute raisonnable est exigé à tous. Préserver nos informations personnelles est plus qu'un impératif, explique cet expert de l'antique.
Il faut toujours appeler votre interlocuteur pour vous rassurer que c'est bien lui qui vous a envoyé le message. Évitez de faire la transaction, quelle que soit l'urgence. Il faut faire des mises à jour régulières de vos applications. Il faut sécuriser le compte WhatsApp via un code ping.
Leurs méthodes sont devenues plus élaborées et subtiles, que personne n'est à l'abri.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 11 minutes à Yaoundé. Accident mortel survenu aux environs de 7h ce matin au village Kombé, dans l'arrondissement de San Melima, département du Djaïlobo, région du Sud. Un car coaster de l'agence Voyage Galaxy en provenance de San Melima, ayant à son bord 22 passagers, le chauffeur est entré en collision avec un camion plateau grumier. Le bilan provisoire fait état de 15 morts et 10 blessés graves et légers. Le préfet du Djaïlobo, Damien Ouno, aussitôt informé, est descendu sur les lieux avec son état-major. Les circonstances mettent en cause le chauffeur du camion plateau, probablement en état de somnolence, qui s'est déporté du côté du coaster. Les blessés ont été référés à l'hôpital de référence de San Melima pour une prise en charge immédiate et les corps ont été déposés à la morgue de la même formation sanitaire. Le gouverneur de la région du Sud est actuellement sur les lieux du drame. Écoutons Damien Ouno, préfet du Djaïlobo, qui revient sur les circonstances de cet accident. Il est au micro de la CRTV.
Au petit matin, nous nous sommes réveillés avec ce choc qui fait état d'un plateau grumier dont le chauffeur était en état de somnolence. Et on s'en tient à la position des deux véhicules qui vient donc heurter, laissant son côté de circulation, qui vient heurter un car de Galaxie, parti à l'agence très tôt avec 22 passagers et le chauffeur dont 23 personnes. La situation à l'état actuel, à l'hôpital de référence, nous fait le bilan si après 15 corps déposés à la morgue déjà et 10 blessés graves, moyens, se retrouvent aux urgences où ils sont automatiquement pris en charge. Nous voulons donc y rassurer les familles de garder le calme. C'est un accident qui est arrivé. Les enquêtes ont été enclenchées ce matin et vont établir les responsabilités des uns et des autres. Nous voulons donc en même temps appeler ici les usagers de la route qui doivent être un peu plus prudents pour préserver non seulement leur vie, leur propre vie, mais aussi les vies des passagers dont ils ont la charge de transporter. Les consignes ont déjà été données par nos soins et par M. le directeur pour la prise en charge automatique. La circulation n'a pas été interrompue.
À l'extrême nord, dans le Mayo Danaï, deux pirogues chavirent à Yagua et à Huina. Bilan provisoire, 8 morts et une personne portée disparue. Les recherches se poursuivent activement sur le fleuve Logon. Les autorités administratives et municipales recommandent la plus grande prudence. Voici le reportage de Djamo Aman depuis Yagua.
La traversée du fleuve Logon en pleine période de crue a été fatale pour 6 personnes qui à bord d'une pirogue partie de Bongor au Tchad pour la localité de Makhirden, faubourg situé à 18 km de Yagua. En plein milieu du fleuve Logon, une forte pluie éclate, le fleuve se déchaîne, accompagné de courants violents. C'est la panique à bord, le moteur s'emballe et la pirogue chavire. L'accident survenu à la tombée de la nuit rend toute intervention difficile. Le lendemain, 5 corps sans vie seront repêchés. Les riverains s'activent pour retrouver le corps de la 6e personne. Autre accident dramatique, ce sont les hippopotames qui s'attaquent à une pirogue. 2 personnes perdent la vie et 4 autres seront sauvées. Sur les circonstances du drame, le maire de Huina, Tobakbe.
Dans le village de Rouen, une pirogue a chaviré avec 7 personnes au bord. 5 ont connu la vie sauve. Deux ont perdu la vie. Ceci à cause de la férocité redoutable des hippopotames. Comme le lit des eaux est profond, naturellement, les hippopotames rejoignent les rives du lac.
Pour compléter le triste tableau, un élève du lycée de Guidamoutou à Yagua se noie ce 9 octobre. Il se rendait à l'école. Marelsu Henchena était élève en classe de première. Yagua, Djamouaman, CIAR TV.
Commerce intra-africain, ouverture ce jour au palais des congrès de Kigali au Rwanda, du Bisahara Africa 2024, du Biashara Africa 2024. C'était sous la présidence de Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, organisé par le secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, avec la collaboration du gouvernement du Rwanda. Ce deuxième forum consacré au commerce, à l'entreprise et aux affaires entend mettre en lumière la vision originelle de l'accord de la ZLECAF et le rôle crucial des acteurs du secteur privé dans l'atteinte des objectifs. Voici les détails avec Luc Bienvenu Nala, l'envoyé spécial de la CRTV à Kigali.
Mettre tous les atouts de son côté et voir grand. Ainsi peuvent se résumer les différentes prises de parole enregistrées ce mercredi à l'auditorium du Palais des Congrès de Kigali. Cette prise de parole qui ont demandé en fait aux États membres de l'Union africaine de faire bloc pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, aussi vraie qu'elle est un instrument pour le développement, la paix, la souveraineté et l'unité du continent. L'Afrique a tout ce qu'il faut en termes de richesses naturelles et humaines. Parole du président rwandais Paul Kagame, qui n'a pas caché sa conviction selon laquelle le temps est venu pour passer définitivement à l'action et pouvoir cueillir ainsi les premiers fruits. Sentiment partagé par le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Kiabe Tchemene, qui a annoncé l'adhésion de 30 nouveaux pays à l'initiative du commerce guidé à laquelle le Cameroun a souscrit en 2022 lors de son lancement à Accra, au Ghana. Après la cérémonie d'ouverture officielle, la suite du programme prévoit des travaux sur des thèmes aussi importants que variés en rapport avec l'accélération du commerce intra-africain. Kigali, Luc Bienvenu Onana, CIAR TV.
Les acteurs du secteur privé camerounais n'ont aucune raison d'avoir le pas lourd dans l'occupation de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est le point de vue de Emmanuel Mbarga. Il est expert des questions d'échanges commerciaux. Le Camerounais est le conseiller régional du secrétaire général de la ZLECAF, pardon, pour l'Afrique centrale. Il a été approché par Luc Bienvenu Onana.
Le constat qu'on peut faire à ces niveaux est que le marché est très vaste. Il s'ouvre progressivement et la concurrence va s'installer. Le secteur privé camerounais, les créateurs de richesses, devraient donc être suffisamment enthousiastes et ingénieux afin de bénéficier des retombées de la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Des instruments ont été développés et mis en place et sont, pour certains d'entre eux, déjà opérationnels. Parmi ceux-ci, on peut citer le livre tarifaire de la ZLECAF en ligne, qui donne la possibilité aux opérateurs économiques d'accéder à l'information commerciale sur les marchés cibles. Et il y a lieu de citer aussi la facilité d'ajustement de la ZLECAF, dont l'un des trois guichets va permettre le financement des projets portés par le secteur privé. Les acteurs du secteur privé camerounais devraient donc s'approprier tous ces instruments.
Le Salon international de promotion de l'entrepreneuriat jeune et la commémoration de l'enseigne de l'initiative Youth Connect Cameroun, eh bien ce salon et la foire internationale auront lieu au Musée national de Yaoundé du 3 au 9 décembre 2024. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a présidé ce mercredi la première réunion préparatoire. Voici le compte-rendu de Daniel Sopo.
Le CIPROM Jeune constitue une tribune d'expression pour la jeunesse entrepreneuriale camerounaise. Une opportunité de synergie économique entre entreprises complémentaires et enfin une plateforme d'échange et de partage d'expériences. Aussi, cette première grande rencontre élargie à tous les acteurs a pour objectif majeur de porter à votre connaissance le contexte et le contenu qui sous-tend l'organisation de cette quatrième édition du CIPROM Jeune, qui est marquée par la promotion de la politique d'impôt substitution. Il est aussi important de relever que la célébration de l'an saint du Youth Connect Cameroun coïncide avec le lancement très prochainement de la phase d'extension de cette initiative. Aussi, cette rencontre est davantage l'occasion pour les acteurs d'échanger sur l'état d'avancement des préparatifs et de recueillir toutes les contributions afin de conduire sereinement les activités préparatoires.
Vous venez d'écouter le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, qui appelle les jeunes à mettre les bouchées doubles pour la réussite de ce rendez-vous, ces deux rendez-vous de Yaoundé, qui permet l'insertion socio-économique de la jeunesse camerounaise. Les parlementaires RDPC de la région du Nord-Ouest se réjouissent de la réalisation de certaines infrastructures routières dans cette partie du Cameroun, suivant les prescriptions du président de la République. Les élus des 7 départements que compte le Nord-Ouest ont été reçus en audience ce matin par le ministre des Travaux publics, à qui ils ont exprimé leurs remerciements et quelques préoccupations liées à l'état de certains axes routiers de la région. Emmanuel Nganoudjoumessi dit avoir pris bonne note de ces doléances et promet des interventions d'urgence sur ces dégradé. Séraphin Djikam.
Des parlementaires RDPC du Nord-Ouest, tout sourire. À tour de rôle, ils ont égrené le chapelet des projets routiers réalisés et en cours, tels que promis par le chef de l'État. Honorable Ndingou Moussa, député RDPC du Ngorketunja.
Notre visite était de venir féliciter le ministre des Travaux publics pour avoir exécuté les instructions du chef de l'État pour maintenir toutes les routes du Nord-Ouest pour que les gens vivent bien ensemble dans le Nord-Ouest.
Au cours de cette audience, avec le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganoudjoumessi, les élus RDPC du Nord-Ouest ont saisi l'occasion pour présenter dans le détail l'état du réseau routier de la région. Le ministre Emmanuel Nganoudjoumessi a donné des assurances. Des interventions d'urgence seront programmées. Les représentants du peuple tiennent à rassurer les populations du Nord-Ouest. Honorable Ndingoum Moussa.
Nous avons un message à passer à toutes nos populations. Qu'ils soient conscients, qu'ils soient en paix, qu'ils laissent les gens qui travaillent, travaillent pour que notre économie se développe.
Malgré la situation sécuritaire dans cette partie du pays, c'est un projet routier d'envergure s'exécute dans le Nord-Ouest. La Ring Road, la route Babadjou, Bamenda, dont les travaux sont presque achevés.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 22 minutes à Yaoundé. En santé, octobre rose, le mois est dédié à la sensibilisation des femmes sur la nécessité de se faire dépister en cas d'anomalie au sein et à l'utérus. Nous allons nous intéresser ce 13h à l'utérus. C'est pour comprendre la place du frottis cervico-vaginal et le vaccin HPV. Notre reporter Arlette Amadou s'est entretenue avec un cancérologue. Voici son reportage.
La prévention du cancer du col de l'utérus se fait en deux grands groupes, la prévention primaire et la prévention secondaire. Docteur Nasser Sangou, cancérologue.
Deux types de dépistage pour la prévention secondaire. Le premier, c'est le frottis cervico-vaginal. Le frottis cervico-vaginal se fait chez la personne qui n'est plus éligible à la vaccination et se fait avant l'âge de 30 ans. Dépassé l'âge de 30 ans, on fait l'autre test qu'on appelle le test à HPV.
Le papillomavirus, à l'origine du cancer du col de l'utérus, peut être combattu par le vaccin.
On vaccine les enfants, garçons et filles, vierges entre 9 et 13 ans.
Passé l'âge de la vaccination, une recommandation est faite aux patientes. Docteur Nasser Sangou.
Le frottis cervico-vaginal négatif se refait un an après le test négatif et lorsque ce test-là est encore négatif, il se fait tous les 2 ans. Lorsqu'on atteint l'âge de 30-35 ans, on fait maintenant le test de HPV. Le test de HPV, chez les patients qui ont déjà fait un frottis cervico-vaginal, se fait 3 ans au minimum après le dernier frottis cervico-vaginal négatif. Mais si on n'a jamais fait de frottis cervico-vaginal négatif, on fait le test de HPV systématiquement lorsqu'on peut le faire.
Il est conseillé de se faire dépister jusqu'à l'âge de 65 ans.
Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, autorité chargée des marchés publics, porte à l'attention des autorités contractantes, maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués, commission de passation des marchés et des soumissionnaires, qu'en prélude à la généralisation de la passation des marchés publics par voie électronique, il est organisé du 10 octobre au 22 novembre une campagne nationale de sensibilisation, de vulgarisation et de formation des acteurs du système des marchés publics sur la passation en ligne des marchés publics à travers la plateforme Cameroun Online e-procurement system, accessible aux adresses www.marchépublic.cm et www.publiccontract.com. publiccontract.ca. Dans ce cadre, il est prévu des sessions de formation dans chaque chef-lieu de région, suivant un calendrier qui leur sera communiqué et disponible dans les délégations régionales des marchés publics. La cérémonie de lancement des dites sessions de formation aura lieu à Yaoundé ce jeudi 10 octobre au Hilton Hotel à partir de 9h précises. À cet effet, le ministre délégué invite-t-il les soumissionnaires à bien vouloir se rendre massivement au lieu de tenue de ces séminaires pour leur inscription sur la plateforme COLEPS et l'émission de leur certificat électronique nécessaire pour la sécurisation de leurs transactions en ligne. Afin de permettre aux enfants originaires de l'arrondissement des Nyakokombo à Kamdombo, lauréats du baccalauréat 2024, d'entamer avec sérénité l'année académique 2024-2025, Monsieur Zebiwole Colin, maire de la commune de Kamdombo, invite tous ceux qui se sont fait enregistrer, les responsables du lycée bilingue de Kamdombo, les parlementaires, les conseillers régionaux et municipaux, les sœurs traditionnelles, les élites et forces vives à bien vouloir prendre part à la cérémonie de remise des bourses d'excellence académique qui se tiendra au foyer municipal de Kamdombo le jeudi 10 octobre 2024 à 10h précises. Le maire compte sur la présence effective de tous à cette importante activité, présidée par le préfet du département d'Union Infumu et fortement soutenu par M. le ministre délégué à la présence chargé de la défense, Joseph Betty Assoman. Nous ouvrons cette page sportive par cette note triste. L'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Vincent Onana, s'est éteint hier, mardi à Yaoundé, à l'âge de 72 ans. Il a dirigé le bureau exécutif de la FECAFOOT de 1996 à 1998. Vincent Onana, professeur d'éducation physique, ancien député, a servi le mouvement sportif national avec dévouement et engagement comme joueur et dirigeant. Témoignage de quelques acteurs dans ce reportage de Didier Marius et Tundi.
Atmosphère lourde ce mercredi matin au domicile de Vincent Onana, situé au quartier Mimboumana, Yaoundé. Sur les visages des frères, amis et connaissances, la tristesse était palpable. Emmanuel Satougli Tina, membre de la famille.
Comme éducateur, il a œuvré pour son pays, a traversé les étapes que tout le monde peut traverser avec brio. Il a toujours été le meilleur. Il a été une personne qui a travaillé aussi pour le RDPC.
Michel Kaham, entraîneur de football, reconnaît en l'homme plusieurs qualités.
C'était quelqu'un d'ouvert, qui aimait le football, qui aimait ce qu'ils sont donnés pour le football. Et c'était une personne entière et franche. Je peux dire que ça a été un dirigeant humble, qui savait bien respecter le football et le métier qu'il faisait. Mais je pense qu'il a bien fait et bien fait son temps. Il est resté droit jusqu'à la fin, jusqu'à ses derniers jours.
Ancien collaborateur à la FECAFOOT, Voga Atédioué, garde de lui le souvenir d'un dirigeant aguerri.
C'est un monsieur qui n'aimait pas les problèmes. Sa façon de travailler, c'était qu'il était clair.
Sportif dans l'âme, Vincent Onana, professeur d'éducation physique et sportive, détecté et formé des talents dans tous les domaines. Il a été directeur des stades de Yaoundé, secrétaire général adjoint de la FECAFOOT, président de la FECAFOOT, député de la nation. Il s'occupait de ses activités agro-pastorales.
Lions indomptables, le Cameroun reçoit le Kenya ce vendredi pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Les confrontations directes entre les deux équipes sont rares en raison des disqualifications de l'équipe kenyane. Mais le Cameroun mène au nombre de victoires. Fris Bayamak.
Trois rencontres annulées jonchent l'histoire du football entre les équipes nationales du Cameroun et du Kenya. Par deux fois, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 disputées en Côte d'Ivoire, Camerounais et Kenyans n'avaient pas pu se mesurer dans leur groupe en raison de la disqualification de l'instance dirigeante du football kenyan par la Fédération internationale. C'était également le cas le 29 octobre 2016. Un match amical entre Lions Indomptables et Harambee Stars a été annulé au dernier moment. Le Cameroun garde toutefois la haute main sur les rares confrontations directes entre les deux équipes. Et la victoire la plus éclatante est celle enregistrée le 9 janvier 2010 à Nairobi en match amical. Les Lions Indomptables, amenés par Paul Le Guen, prépare alors la Coupe d'Afrique des Nations 2010, prévue en Angola. Menée 1-0 après 8 minutes de jeu, les Camerounais par Pierre-Achille Webou, Achille Emana et Mohamedou Idrissou vont faire plier le Kenya à domicile. Les Harambee Stars ont un meilleur résultat en match officiel. L'histoire retient que le Kenya a contraint le Cameroun au match nul le 20 mars 1988 à Rabat. C'était le troisième match dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Un match nul qui n'empêchera pas Roger Mila et ses camarades de passer l'étape des poules et de remporter par la suite, pour la deuxième fois de leur histoire, la plus prestigieuse compétition de football sur le continent africain.
Le match est prévu vendredi à 17h au stade Omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions Indomptables ont deux séances d'entraînement ce mercredi. La première en salle à leur quartier général à 11h. Donc la séance est terminée. La seconde à 17h cet après-midi à huis clos au stade Ngoïkélé. Trois nouveaux joueurs ont intégré la tanière hier soir. Il s'agit des défenseurs Flavien Enzo Boyomo, Jean-Charles Castelletto et Nuhu Tolo. Le 24e Brice Mouminga Maleu est attendu ce mercredi. Dixia de 2024, rendez-vous fixé du 11 au 22 décembre à Yaoundé. Les Jeux nationaux sont de retour dans la capitale camerounaise. 16 ans après la première édition, les membres du comité d'honneur et du comité local d'organisation ont pris fonction ce matin au cours de la cérémonie d'installation présidée par le gouverneur de la région du centre en présence des membres du bureau exécutif du comité national olympique et sportif du Cameroun. La région du centre prend l'engagement de donner un éclat particulier à ce rendez-vous de la jeunesse sportive camerounaise. Samuel Billon.
Dixia, 10 régions, 10 disciplines sportives, 10 jours de compétition, unité nationale et saine émulation des athlètes. La 8e édition des Jeux nationaux du Cameroun est toute spéciale. Elle se tient à Yaoundé, siège des institutions où tout avait commencé en 2008. Yaoundé 2024 marque aussi le début d'une nouvelle Olympiade et donc opportunité majeure de détection des pépites. Le centre sort l'artillerie lourde pour une organisation sans couac. Nasseri Paul Béa, gouverneur de la région du centre.
C'est compte tenu aussi de la taille de la région, qui a 10 départements, des personnalités et la compétence de tout le monde. Voulons faire une différence. Et voilà pourquoi nous avons sollicité tout le grand corps de notre région.
Mobilisation à large spectre de l'élite et des forces vives de la région. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, préside le comité d'honneur avec comme vice-président Robert Nkili, vice-président du Sénat, Hilarion Eton, vice-président de l'Assemblée nationale, entre autres têtes couronnées. D'autres profils et poids lourds sont également mobilisés pour le 11 commissions du comité d'organisation Cheville ouvrière du succès en téléchargement. Au président du comité national olympique et sportif du Cameroun, Hamad Kalkaba Malboum, présent à la cérémonie, le maire de la ville, Luc Messi Atangana, rassure, Yaoundé dispose de tout le confort pour la bonne tenue des Dixiades 2024.
Le logo des Dixiades Yaoundé 2024 a également été présenté au cours de la cérémonie d'installation des membres du comité d'organisation ce matin. Œuvre d'un original et attraction, œuvre originale et attractive. Attractif, le logo est porteur et représentatif des valeurs olympiques à travers ses anneaux. C'est un outil de rassemblement à travers le monument de la réunification. Et pour le coordonnateur général des Dixiades, les Jeux nationaux sont porteurs des enjeux sportifs et d'intégration nationale. Je vous propose d'écouter le ministre Grégoire Ouona, par ailleurs premier vice-président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Les propos sont recueillis par Samuel Billon.
On travaille depuis plusieurs mois. Il ne faut pas qu'on croie que le travail commence aujourd'hui. Le comité local d'organisation est quelque chose d'essentiel dans la réalisation effective des Jeux. Il s'est donc mis en place et nous continuons de travailler en synergie avec ce comité local pour implémenter comment les Jeux doivent se passer. Vous savez que c'est une période très importante qui permet en fait de préparer les prochaines Olympiades. Le fondement même des Dixiades, nous avons retenu par principe 10 disciplines pendant 10 jours.
Ce communiqué du ministre des Finances qui porte à la connaissance des directeurs généraux des établissements publics et des maires qu'en application des dispositions de la loi du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024, les attestations de retenue à la source des impôts et taxes sont désormais délivrées exclusivement en ligne à travers le module e-biling du système informatique de l'administration fiscale. Pour assurer le plein succès de la mise en œuvre de cette réforme dont la phase de généralisation est intervenue depuis le 18 mars 2024, des sessions de formation sont projetées à l'intention des agents comptables et des receveurs municipaux suivant les modalités ci-après. Auditorium de la Direction générale des impôts, mercredi 9 octobre, jeudi 10 octobre pour les agents comptables, heure 14h-17h. Le ministre des Finances invite les responsables concernés à prendre massivement part à ces sessions de formation qui leur permettront d'être suffisamment outillés pour mener leurs opérations sur la plateforme dédiée e-buying. Par ailleurs, il rappelle qu'un dispositif d'assistance en ligne et à distance est mis en place à travers le centre d'appel téléphonique de la Direction générale des impôts, numéro 8200, et la plateforme électronique Helpdesk, accessible à l'adresse www.support.harmonie2.cm. Le ministre des Finances compte sur le civisme habituel et la collaboration de tous. Vous écoutez le 13h, voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais. Drusilla Mokoso-Djoki.
Good afternoon. The civil cabinet of the Presidency of the Republic has reassured Cameroonians and the international community on the excellent health of President Paul Biya. A communique issued by the Minister Director of the Civil Cabinet, Samuel Vondoyelo, indicates that the head of state continues to exercise his duties from Geneva after his latest visit to China. He has condemned the rumors spread by mischievous individuals about the supposed poor health and eventual death of the President of the Republic, saying they are an attack on the freedom of expression and a misleading of local and international public opinion. In the meantime, the Minister of Communication says the President of the Republic, Paul Biya, is on a brief and private sojourn in Europe after taking part in the recent China-Africa summit in Beijing. In a press release signed yesterday, the Minister of Communication emphasizes that President Paul Biya will return to Cameroon in the days ahead. Minister René-Emmanuel Sadi, in the communique, also lambasts perpetrators of social media rumors disseminating false information about the health and life of the head of state, rumors the communication boss has debunked as false, the product of fantasy and pure imagination. 15 people have died and 10 others are wounded following a road accident that occurred this morning in Kombe, Sangmilima subdivision in Ja and Lobo division of the South region. This follows a head-on collision between a trailer and a bus belonging to the Galaxy Public Transport Agency that had on board 23 people. Sources say the trailer's driver lost control of his locomotion and collided with the oncoming public transport bus on its side of the road. The injured are receiving treatment at the Sangmilima Reference Hospital, while the dead have been placed in the mortuary. Top administrative officials, among them the governor of the South Region and the SDU for Ja and Lobo, have been to the accident site to inspect damages and begin investigations. A delegation of parliamentarians from the Northwest region led by Honorable Njingu Musa have expressed satisfaction with government towards efforts to upgrade and expand the road networks in the region, particularly the ongoing construction of the Ring Road. They were speaking during an audience with the Minister of Public Works in Yaoundé today, during which the people's representatives highlighted the challenges faced by the 7 divisions of the region, with a significant concern being the need for more tarred roads and bridges to promote socioeconomic development. A free screening for breast and ovarian cancer is ongoing at the Yaoundé Gynec Obstetric and Pediatric Hospital in Gusau. The one-week campaign is part of activities to mark the Cancer Awareness Month, celebrated as Pink October. Apart from free screening, cancer patients are receiving care and treatment at reduced costs. And in sports, the former president of the Cameroon Football Federation, Vincent Onana, has died. Vincent Onana, who served as FECAFOOT president between 1996 and 1998, died in Yaoundé yesterday after a malaise. Still in sports, players and staff of the men's national football team of Cameroon will hold their 5th training session at 5 p.m. today at the military stadium ahead of 2 Africa Cup of Nations qualifiers against Kenya on the 11th in Yaoundé and 14th of October 2024 in Kampala, Uganda. These and more at 3 p.m.
à retenir de cette édition qui s'achève, la force du silence contre la dictature du mauvais bruit. Paul Biya est vivant, il se porte bien, il va qu'à ses occupations, il sera de retour au bercail dans les tout prochains jours. Assurance donnée par le ministre directeur du cabinet civil et par le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, suite à la vague de rumeurs qui a immergé l'opinion nationale et internationale. C'est donc un soulagement et un apaisement. Les Camerounais, dans leur immense majorité, ont accueilli avec joie les bonnes nouvelles fraîchement servies sur leur président et condamnent avec véhémence les pêcheurs en eau trouble. 13h39 à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.